Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Cécile. Bonjour.
Bonjour Marie.
Albert Camus, journaliste, écrivain majeur du XXe siècle, est revenu sur le devant de la scène avec l'adaptation au cinéma par François Ozon de son premier roman connu, L'étranger. Penseur indépendant, il a d'ailleurs payé cher face à l'intelligentsia de l'époque, à la fois révolté et mesuré. Défenseur de la justice, de la liberté et du respect humain, il nous a laissé une œuvre parfois déroutante, mais brillante et cruellement d'actualité. Cécile, vous avez rencontré Anne Proutot, spécialiste d'Albert Camus, pour nous aider aujourd'hui à comprendre l'homme et l'écrivain. Elle nous parlera aussi de son ouvrage collectif, Camus chez les Justes. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. Curiosité sous toutes ses coutures.
Anne Proutot est maître de conférences en littérature française moderne à l'Université catholique de l'Ouest et présidente de la Société des études camusiennes, société qui a été fondée en 1982 et qui a pour vocation de faire rayonner l'œuvre d'Albert Camus. Elle est donc une des grandes spécialistes d'Albert Camus. Nous l'avons rencontrée pour évoquer bien évidemment le film de François Ozon qui est sorti en octobre cette année, mais aussi, au travers du film et du roman L'étranger, avoir un éclairage sur la pensée d'Albert Camus. Adapter au cinéma le roman L'étranger ne semble pas évident. L'œuvre dénonce l'absurdité de la condition humaine au travers du destin de Meursault, un personnage secret, peu sociable, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est incarné dans le film par Benjamin Voisin. Ses sentiments sont insondables et il est comme inadapté à notre société. Nous avons tout d'abord demandé à Anne Proutot, que pense-t-elle du film ? Pense-t-elle que le film restitue fidèlement, le roman et la pensée de Camus ? On l'écoute.
Oui, absolument. Oui, j'avais eu la chance à l'automne dernier, quand François Ozon écrivait son script, de passer un moment avec lui, puisque je pense qu'il a cherché à joindre plusieurs spécialistes. Il avait déjà, je pense, sa propre vision de cette adaptation. Je crois qu'au départ, il voulait pas forcément adapter L'étranger, mais il était plutôt sur l'histoire d'un homme en dépression. Et il a cherché, il est tombé sur L'étranger, bien que L'étranger, on ne puisse pas non plus le réduire à Meursault à cela. Donc moi, quand j'ai vu le film, je l'ai trouvé très réussi. Alors très réussi pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup aimé, enfin je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la lumière, ce noir et blanc qui est splendide.
Le soleil irradie le film.
Absolument, hein, vraiment quelque chose de très réussi, enfin qui donne tout de suite un caractère énigmatique et poétique à l'adaptation, comme l'est le roman. Ensuite, évidemment, c'est très fidèle au niveau du contenu. Hein, il a réussi à parler de cet homme, justement, Meursault, qui est étranger au monde, cet homme pour qui tout est égal à tout, hein, de déjeuner, manger des pommes de terre ou de rencontrer Marie, de se marier même avec Marie. On voit bien qu'il y a une forme d'équivalence. Hein, et on a le sentiment, enfin, on est comme finalement, on parlait à l'époque de l'apparition de Camus du behaviorisme, de sorte de comportementalisme déjà que Camus avait adopté, hein, une forme d'écriture comme cela, instant après instant, mais qui ne rentre pas forcément dans la subjectivité justement du personnage, qui comme reste à l'extérieur, et je pense que le film le rend très bien.
Le personnage reste secret en fait.
Absolument, très secret, très mystérieux, très énigmatique, hein, faut bien le dire, hein, je veux dire, c'est un roman qui est très très difficile à expliquer. Effectivement, il fait partie du cycle de l'absurde, c'est-à-dire l'absurde, je ne sais pas si je rentre là-dedans de quoi il s'agit, mais on pourrait dire pour simplifier que c'est... Camus dira lui-même à ce divorce entre l'élan de l'homme vers l'éternel et le caractère fini de son existence, c'est-à-dire que pour Camus, Dieu est mort, enfin dans la suite de Nietzsche, donc la vie a de la valeur mais n'a pas de sens, ou elle mène au néant. Et donc ce personnage représente justement ce sentiment d'étrangeté au monde. C'est pas l'homme qui est absurde, c'est pas le monde qui est absurde, c'est cette cohabitation.
C'est la condition humaine qui est absurde, en fait.
Enfin, c'est la condition humaine, finalement, oui, l'homme dans son rapport au monde. Enfin, l'exemple qu'il prend dans le mythe de Sisyphe, qui illustre l'étranger, c'est ce Sisyphe qui est condamné par les dieux à rouler son rocher jusqu'au sommet de la montagne. Il a à peine relâché son rocher que le rocher dévale la pente avec Sisyphe aussi. Et finalement, c'est ça, une condamnation éternelle, à rouler son rocher jusqu'au sommet de la montagne et de le voir retomber. Donc effectivement, c'est un peu l'image de la condition humaine qui pourrait mener à une forme d'à quoi bon, de mépris, à quoi bon vivre.
De pessimisme. Oui. Alors, est-il pessimiste, Camus?
Et non, justement, Camus, dans le mythe de Sisyphe, il éclaire très bien, il dit finalement, le moment où Sisyphe grimpe cette colline, eh bien, son rocher lui appartient, son destin est sa chose, et finalement, il y a ces moments de présence, ces présences successives qui peuvent avoir du sens, même si on sait que ça ne mène à rien, même si tout se défait. C'est pour comprendre pourquoi, à la fin du mythe de Sisyphe, Camus dit « il faut imaginer Sisyphe heureux », c'est qu'il faut comprendre que ce temps terrestre qui est donné à l'homme, c'est un temps qui peut être un temps de construction, un temps d'amitié, un temps de révolte pour sa condition, pour celle des autres. Donc Camus passe de l'absurde à la révolte en considérant, gérant toute la valeur du présent. Hein. Alors c'est, voilà, pour restituer ce premier cycle. Il faut bien penser aussi que l'absurde est un point de départ pour Camus, qu'effectivement c'est une forme de nihilisme, mais que Camus va tenter d'abord de dépasser ce nihilisme par la révolte, le cycle qui viendra après, et aussi de dépasser ce nihilisme en le rendant plus actif, en disant mais la vie, enfin, comme dira Camus, mon royaume tout entier de ce monde, dès à présent, on peut faire quelque chose, malgré cette mort qui peut survenir à tout moment et qui peut plonger dans le néant, ça vaut la peine
La vie doit être vécue pleinement, peut-être justement parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'au-delà.
Absolument, absolument. Mais une seule vie, c'est ce qu'il dira.
Ouais, une seule vie. Il y a un petit détail sur lequel je voudrais revenir, enfin pas un détail d'ailleurs. Camus a dit aussi que Meursault était mort de ne pas avoir pleuré à la mort de sa maman.
Oui.
Alors est-ce que là, il n'est pas aussi quand même en critique sur la société des hommes qui régit en fait ce que l'on doit être?
Oui, oui, absolument. C'est une très bonne question parce que je répète, on est parti du film, on arrive au roman, mais c'est difficile de toute façon de ne pas faire ce petit va-et-vient, c'est pas grave. Parce que justement, ma réponse est que le film est un bon film, un très bon film. Mais par rapport à cette question, justement, c'était d'ailleurs une chose que j'avais partagée avec François Ozon, la préface de 1958 de Camus, la préface à l'édition américaine, où il explique l'étranger et où il dit finalement, Meursault, c'est quelqu'un qui est condamné parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, c'est quelqu'un qui est condamné parce qu'il a refusé de mentir, parce qu'il a refusé de jouer le jeu de la comédie sociale, parce qu'il a refusé de dire plus qu'il ne sent. Et en fait, et d'ailleurs Camus va très loin et dira, c'est le seul Christ que nous méritons, Meursault. Au sens, il serait quand même, bon, dans son étrangeté, c'est un homme secret, on le disait, c'est un homme mystérieux, on comprend pas ce qu'il fait, on comprend pas ce qu'il pense, mais à la fin du roman et à la fin du film, d'ailleurs, on voit bien que c'est un homme qui ratifie sa vie et qui est resté dans une forme d'intégrité. Bon, si ce n'est qu'il a tué quand même.
Il a quand même tué à cause du soleil.
À cause du soleil. Quelque part, est-ce que ça veut dire aussi que cet homme a été le jouet, il a fait un mal qu'il ne voulait pas faire, parce qu'il n'y a aucune intention dans le roman de tuer cet arabe.
Il prend l'arme quand
même. Bien sûr.
Il ne l'avait pas avant, il la prend.
C'est quand même lui qui
va se prendre sur la plage avec l'arme.
Absolument, absolument. Mais est-ce qu'il y a une explication dans le roman pour ça?
Non.
Est-ce qu'il y a une intention? C'est bien ça qui est complexe à comprendre.
Il n'y a pas de réponse dans le roman. Ça fait penser un peu à une tragédie antique, finalement, avec le destin.
Absolument.
Qui l'attaque.
Je voudrais quand même, si vous voulez bien, revenir un tout petit peu sur le film d'Ozon pour dire que, à la fois, c'est un... Et pour aller au bout, quelque part, que effectivement, il a, selon moi, très bien adapté l'étranger, même si j'ai des petites réserves sur la scène. Voilà. Alors, par exemple, j'ai la réserve de la scène du crime qui est très érotisée chez Ozon, oui. Et franchement, qui est pour moi, et c'est un peu un contresens, parce que justement, la mort n'a pas de raison dans le texte de Camusien, et je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Il y a quand même une forme de scène de séduction. J'ai compris qu'Ozon avait parlé de Pasolini comme forme d'inspiration, donc moi, je suis plus réservée sur ce moment-là. Mais ce qui me semble tout à fait intéressant aussi, je dois le dire, c'est que non seulement il adapte l'étranger, mais il adapte aussi le livre de Kamel Daoud, Meursault contre enquête. Je ne sais pas si voilà, les auditeurs connaissent et ont... en tout cas, ça vaut le coup de lire le livre de Kamel Daoud. C'était il y a plus, parce qu'il a eu le prix Goncourt l'année dernière pour Houri, mais il a écrit Meursault contre enquête il y a peut-être 5-6 ans. Et c'est un livre qui est une sorte de... qui s'adosse à L'étranger de Camus. Et c'est Kamel Daoud, c'est un écrivain algérien qui... au XXIe siècle, reprend ce texte et surtout reprend le fait que l'arabe n'a pas de nom dans l'étranger et lui donne un frère, lui donne une mère. Et donc, on voit bien que Ozon a lu Meursault contre enquête dans le sens où vous avez vu, c'est une Algérie beaucoup plus coloniale. On voit beaucoup plus les Arabes qu'on ne voit pas dans le roman de Camus. Et ça, je trouve ça très intéressant. Au départ, ça commence par un petit documentaire sur les actualités coloniales. On voit des personnes arabes, des personnes voilées. On voit, il y a le muezzin, même si quelqu'un m'a dit, c'est bizarre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de haut-parleur. Mais enfin, bref, on veut montrer et signifier aussi la vie des musulmans. Et puis, dans le film d'Ozon, l'arabe a une sœur, Jemila. Moi, j'ai beaucoup aimé tout cet aspect parce que c'est comme s'il s'était emparé d'un roman écrit en 42 dans des circonstances très particulières et qu'en 2025, c'était très important de donner la place à chacun finalement et de bien montrer aussi l'histoire. Donc moi, j'ai aimé cela aussi.
François Ozon a fait son adaptation en 2025.
Absolument.
Et ça, oui, c'est positif. Et en plus, pour nous qui n'avons pas connu cette période-là, ouais. Les scènes d'Alger, de la vie à Alger et de la rue d'Alger sont extrêmement intéressantes, vivantes et effectivement, ouais. On découvre un monde.
Même s'il a tourné au Maroc, mais en tout cas, parce qu'il n'a pas pu le faire autrement. Mais il y a cette... D'ailleurs, aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui change aussi beaucoup la donne, c'est que la première phrase du film, très très vite, on entend « j'ai tué un arabe ». Et c'est pas aujourd'hui, maman est morte. Donc, on remet aussi la focalisation sur cet acte, sur ce meurtre et dans l'arrivée de Meursault dans cette prison. Tout ça, ça me semble très, très intéressant parce que j'en parlais tout à l'heure aux étudiants, il y a une frange qui peut réduire l'étranger en disant c'est un roman colonialiste, une lecture au premier degré qui est difficile à entendre et qui me semble quand même vraiment...
Qui est récente, parce que c'est pas ce qu'on entendait dans les années 80 quand on a étudié
lycée. Tout à fait, c'est tout à fait récent dans ce, une dimension postcoloniale, mais qui est pourtant, mais autant, au contraire, je suis pour justement parler de l'étranger ou l'adapter dans cette période postcoloniale, d'où tout ce qui a été ajouté par Ozon me paraît intéressant, le livre de Kamel Daoud aussi que j'aime énormément, mais réduire ce roman à un meurtre colonialiste, un meurtre raciste, ça me semble aussi franchement
un peu court.
Réducteur et un peu court.
Oui, et c'est nier le côté philosophique du livre de Camus.
Absolument, tout à fait, parce que dans le fond, cette histoire d'arabe, c'est une histoire, vous savez, c'est pas rien. En 38, Camus écrit dans ses carnets « Je voudrais écrire l'homme ». Enfin, déjà, c'est encore plus ancien. Donc, il avait publié ses deux premiers romans chez l'éditeur Charlot à Alger, « L'envers et l'endroit » et Noce. Ensuite, il s'attaque à la mort heureuse. Le héros s'appelle Meursault, bizarrement. La mort heureuse, il le finit, mais il ne publie pas. Et sur les décombres de la mort heureuse, il écrit L'étranger, avec son fameux Meursault. Et là, il a déjà la première phrase dès 1938, aujourd'hui maman est morte. Et puis ensuite, donc, le livre va se nourrir de différentes choses, et notamment d'anecdotes qu'il entend. Et la mort de l'arabe sur cette plage, c'est une histoire qui lui a été racontée, que la visite à l'asile de Marengo. Un écrivain, vous voyez, il fait feu de tout bois, et voilà, et c'est ce qui fait que l'histoire un jour...
Alors Cécile, avant de retrouver Anne Proutot pour la suite de cet entretien autour d'Albert Camus, nous faisons une petite pause musicale avec Colline Rio, « J'aime les gens qui doutent ». C'est une chanson écrite et en son temps interprétée par Anne Sylvestre. Colline Rio, « J'aime les gens qui doutent ».
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Vous êtes toujours à l'écoute de Franche Culture sur les bonnes ondes de Radio Campus. Et nous poursuivons l'entretien avec Anne Proutot, maître de conférence en littérature française moderne à l'Université catholique de l'Ouest et présidente de la Société des études camusiennes autour d'Albert Camus.
Oui Marie, nous avons évoqué au travers du roman L'étranger les cycles de la pensée de Camus, l'absurde de la condition humaine qui selon lui ne mène nulle part, enfin la vie ne mène nulle part, l'absurde donc, mais qui ne le conduit pas au pessimisme, mais plutôt à la révolte et au désir de vivre pleinement ce qui nous est donné. Homme de dialogue, révolté mais mesuré, il nous a semblé que Camus cherchait le juste. Il a écrit la pièce « Les Justes » et il disait aussi qu'il était primordial d'utiliser le mot « juste » tant pour écrire que pour parler. On écoute l'entretien avec Anne Proutot. Absolument. Comment est-ce que vous traduiriez ça dans la pensée de Camus, ce mot « juste » ?
Oh ben c'est très important, parce que la citation, c'est « mal nommer un objet », c'est « ajouter au malheur de ce monde ». Donc « mal nommer un objet », c'est chez Camus, en tant qu'écrivain, la recherche du mot « juste », mais la recherche aussi d'un langage juste. Et c'est vrai que c'est tout à fait lié avec un comportement juste, un comportement, quelqu'un qui ne dit pas plus qu'il ne sent, ne pas plus qu'il est, en fait. Hein, cette forme d'intégrité, de cohérence, elle est très importante pour Camus, et elle est très importante pour le roman. Dont le travail est de chercher le mot juste, justement.
Alors Camus, c'est un homme de dialogue. Et comment ce mot juste a façonné, fait avancer sa pensée ?
Il y a un personnage que j'adore dans La Peste de Camus, qui est paru en 1947, c'est le personnage de Grand, qui est un petit employé de bureau, là, très modeste, qui, pendant que la peste fait rage, le médecin fait son travail, il y a le journaliste, il y a le prêtre, et il y a ce Grand, il s'appelle Grand. Il a des vestes, c'est-à-dire trop grandes, on a l'impression qu'il est un peu le pauvre, un homme un peu ridicule. Et qu'est-ce qu'il fait pendant la peste ? Eh bien, il est en train d'écrire les premières lignes d'un roman dont il espère qu'on dira un jour chapeau bas. Et c'est vrai qu'il est un peu ridicule apparemment parce qu'il est toujours dans les 5 premières phrases. Et puis quand il lit les premières phrases, on se dit bah, tout ça pour ça. Mais dans le fond, le narrateur de La Peste a beaucoup d'amitié, de tendresse pour ce personnage qui cherche le mot juste. Est-ce que je vais mettre et ou puis ou voilà, il y a là, c'est tout peut avoir un impact quelque part et c'est vrai que le langage c'est pas rien de l'accueillir et il est pour moi dans ce roman La Peste la métaphore de l'écrivain, de l'artiste qui dans des temps difficiles et ben qu'est-ce qu'il a à faire, ben il a continué à son art parce qu'il sait très bien que et c'est le cas de Camus que son art peut quelque chose, non pas malheureusement éradiquer la guerre, mais peut équilibrer. Ça, c'est un mot qui est très important chez Camus, c'est que la beauté peut équilibrer quoi, équilibrer ce monde et ses horreurs quelque part, non pas les enlever, mais enfin j'ai beaucoup réfléchi à ce mot équilibrer parce que c'est ça finalement la vie et c'est très important. C'est pour ça que je crois beaucoup dans la littérature. Elle apporte cette sorte de poids de beauté qui fait quelque chose à sa mesure. Et pour Camus, c'était presque un sacerdoce en fait.
Et dans le mot juste aussi, il y a l'attitude, je dirais, politique de Camus, qui disait toujours qu'il était pour la révolte, mais que la fin ne justifiait pas les moyens.
Oui, parce que le mot juste, c'est aussi, ça renvoie par exemple à la pièce de théâtre « Les Justes », c'était 49, je crois. « Les Justes », voilà, c'est quoi cette histoire ? Ben, c'est justement l'histoire de révolutionnaires qui sont très attendrissants, enfin je veux dire des révolutionnaires qui voudraient vraiment une Russie égalitaire, que les enfants mangent à leur faim, etc. Et en fait, qui s'apprêtent donc à jeter une bombe sur la calèche du grand-duc. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Yannick, quand il arrive devant la calèche du grand-duc, eh ben, il ne peut pas jeter la bombe parce qu'il y a 2 enfants. Alors il revient au QG, il se fait enguirlander par les autres. Comment ? Parce que tu n'as pas tué 2 enfants. Ce sont des millions d'enfants russes qui mourront encore de faim et de froid cet hiver. Eh bien oui, c'est ça. C'est pour Camus, la faim ne justifie pas les moyens. Et c'est que aussi, aucun crime, aucune injustice présente ne peut légitimer une justice future. C'est pour ça qu'il est contre tous les terrorismes, hein, quelle que soit la justesse du combat.
La justesse du combat et de la vocation.
Les moyens doivent être en rapport.
Oui, alors, venons-en à votre ouvrage, Anne Proutot, donc Camus chez les Justes, un ouvrage qui met en lumière une partie méconnue de sa vie, un séjour en cure à Chambon-sur-Lignon pendant la guerre. Est-ce pour vous un moment qui a façonné et fait avancer la pensée d'Albert Camus ?
Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a plein de choses qui paraissent sur Camus, mais c'était un moment qui, curieusement, était resté un peu sous silence. On savait qu'il était parti là-bas. Il est parti pour se soigner au Chambon-sur-Lignon à cause de sa tuberculose. Et en fait, sa femme est rentrée en Algérie et il ne pouvait plus, à partir du mois de novembre, les Alliés ont envahi
le sud
de la France. Enfin, il y a eu une coupure avec la Méditerranée. Et donc, il ne pouvait plus rentrer chez lui. Donc, il est resté dans ce petit village de Haute-Loire où j'ai eu l'occasion d'aller depuis que j'ai écrit le bouquin. Enfin, qui est un collectif. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, toujours est-il.
Il est resté au Chambon-sur-Lignon.
Il est resté au Chambon-sur-Lignon. La question, c'était oui, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? C'est évidemment très important. Parce que d'abord, il a du temps. Donc, ce n'était pas prévu. Il est tout seul. Donc, il va avoir du temps pour écrire. Il va donc réécrire une deuxième version de La Peste. Il va écrire Le Malentendu, qui est une pièce de théâtre du cycle de l'absurde. Il a toujours plusieurs petits travaux sur plusieurs casseroles sur le feu, Camus. Et puis la première lettre à un ami allemand. Enfin, si on a le temps, on rentrera dans le détail. Donc ça va avoir une forte influence sur sa production littéraire. Parce que il est au Chambon-sur-Lignon. Et là, c'est un lieu donc, qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est un lieu qui a sauvé de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait deux pasteurs qui ont appelé vraiment les habitants du Chambon à utiliser les armes de l'esprit et à rester accueillants et ouverts. Et comme il y avait déjà beaucoup de homes d'enfants, parce que c'était un lieu pour, ça s'appelait les cures d'air, pour les enfants malades, etc., ça a été très facile. Et la configuration du Chambon aussi, c'est des fermes isolées, de contribuer au sauvetage de nombreux juifs. Donc Camus a vécu dans ce milieu, mais quelque part on s'est rendu compte qu'il était au Panelier, donc il y avait, pendant 4 mois, c'était un pays, alors il a souffert énormément du froid, on se demande d'ailleurs comment un tuberculeux, enfin je sais pas s'il n'était pas plus malade en partant qu'en arrivant, mais enfin c'était comme ça. Je suis allée au mois de décembre au Chambon, fin de l'année dernière, et les gens me disaient « mais c'était pire du temps de Camus, il neige entre décembre et avril, quoi ». Donc, oui. Voilà. Bref, c'est pour vous dire qu'il a pas forcément... en tout cas, il a côtoyé, par exemple, Chouraki, qu'on connaît parce qu'il est le futur traducteur de la Bible, qui habitait là, qui avait, parce qu'il était juif, avait perdu son boulot d'avocat à Oran, s'est retrouvé au Chambon-sur-Lignon. Camus allait le voir pour manger du couscous, mais aussi pour se faire... expliquer des passages de la peste dans la Bible qu'il utilise dans son roman La Peste. Donc c'est un moment très important, et donc il y a plusieurs collaborateurs qui reviennent sur, par exemple, Marie-Thérèse Blondeau sur La Peste, qu'est-ce qui est changé, qu'est-ce qui va être transformé dans le roman La Peste, puisqu'il va mettre 7 ans à l'écrire, parce qu'il est au Chambon, il y a un côté beaucoup plus historique, il y a aussi une présence des Juifs, il y a la question de la lutte collective qui prend beaucoup d'ampleur aussi dans La Peste. Vous avez un témoignage de Catherine Camus, mais je ne vais pas tout dévoiler. Moi, je recontextualise tout ce qui s'est passé avant l'arrivée au Chambon et après le Chambon. Et puis, on a dépouillé la correspondance de Camus au Chambon, les lettres, les carnets. Donc, c'est intéressant de voir son état d'esprit. Et puis, surtout, ce qui va se passer pour lui. Donc, il y a tout cet aspect littéraire, mais il y a le fait qu'il commence la guerre en pacifiste, Camus. Il avait pourtant voulu s'engager... Et il n'avait pas pu s'engager, mais il le dira, j'ai commencé la guerre en pacifiste, je la termine en résistant. En fait, il réfléchit, notamment dans Lettres à un premier Allemand, il dit finalement, il nous avait fallu tout ce détour pour voir si on pouvait tuer des hommes. Mais oui, on peut tuer des hommes dans certaines circonstances, sous le joug nazi. La violence reste pour Camus inexcusable, injustifiable, mais inévitable en fait. Et ça aussi, c'est une prise de conscience. C'est le Chambon qui modifie aussi
cette prise de conscience. En fait, un homme mesuré quand même, qui adapte sa pensée. Rapidement, pour terminer, en quoi pensez-vous que la pensée de Camus peut être d'actualité et nous éclairer aujourd'hui ?
Je pense que j'y ai répondu pour une part, parce que malheureusement, est-ce que le terrorisme a disparu ? Est-ce que l'inflation verbale a disparu ? Je veux dire qu'on est... Vous savez qu'il y a beaucoup de... Il a eu toute une carrière de journaliste. D'ailleurs, en quittant le Chambon, il rentre dans ce combat clandestin. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a chez lui... Enfin, disons que c'est quelqu'un pour qui le fait moral... D'ailleurs, c'est Sartre qui le dira, qui incarnait le fait moral. C'est quelqu'un qui s'est posé des questions. C'est quelqu'un qui avait le courage de la nuance, qui s'est d'ailleurs souvent retrouvé dans des grandes difficultés parce qu'il essayait de comprendre les différents camps. D'ailleurs, la solution qu'il aurait proposée pour l'Algérie, c'était justement un gouvernement fédéral où les Arabes auraient eu pleinement leur place de citoyens et la présence encore des Européens d'Algérie. Donc il y a eu chez lui vraiment cette... je pense qu'on peut... Et puis cette question du dialogue, quoi. Il n'y a pas de vie sans dialogue, dira-t-il, et pour refuser d'essentialiser les personnes, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on refuse finalement la vraie confrontation.
Et pour, le vrai dialogue, et, oui.
Ouais, pour caricaturer les personnes. Enfin, disons que vous prêchez... je suis convaincue que c'est une lecture... c'est une lecture qui apporte à notre monde, mais je voudrais dire qu'elle apporte en tant qu'œuvre littéraire, parce que ce sont des œuvres qui sont finalement, on le voit avec L'Étranger, qui sont en fait complètement actuelles. Je disais que La Peste a eu beaucoup de succès pendant le Covid, il y a une sorte de côté un peu atemporel, et puis parce qu'il a, non pas par les réponses qu'il a apportées, mais par les questions qu'il a suscitées constamment.
Anne Proutot, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Cécile pour cet entretien autour d'Albert Camus avec Anne Proutot, qui, je le rappelle, est maître de conférences en littérature française moderne à l'Université catholique de l'Ouest et présidente de la Société des études camusiennes. L'ouvrage « Camus chez les Justes », livre collectif dirigé par Anne Proutot, est publié aux éditions Bleu Autour. Vous pouvez aussi lire le livre de Kamel Daoud, « Meursault contre-enquête, la vision algérienne de l'œuvre L'étranger », publié aux éditions Actes Sud en France. Et bien sûr, vous l'aurez compris, le film « L'étranger » de François Ozon, qui passe toujours au cinéma Les 400 coups à Angers. N'hésitez pas, vous aurez compris qu'il a beaucoup plu, et à l'équipe, et à Anne Proutot. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Elliot pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Ou bien sûr, en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.